Et vous écoutez France Culture. C'est ce que nous sommes tous, des acariens aveugles, fourmillant sur notre grain de poussière dans l'infinité méconnue, irrationnelle, dans l'impasse horrible de ce monde. Mircea Cărtărescu. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui recevra et évoquera ce soir deux immenses visionnaires, le romancier essayiste roumain Mircea Cărtărescu, dont le roman Solénoïde, paru chez Noir sur Blanc, est l'événement littéraire mauvais genre de cette rentrée, et une fresque dantesque où la Bucarest des années Ceaușescu se pare des faces horrifiques d'Arkham et de Malpertuis. Et Alan Moore, dont la version annotée des Watchmen, sortie chez Urban Comics, livre une exégèse minutieuse de ce monument graphique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre au rendez-vous des grands visionnaires ce soir, un peu tous les jours, toutes les semaines d'ailleurs, mais ce soir tout particulièrement avec donc, je le répète, Mircea Cărtărescu, Solénoïde et Alan Moore. Je suis en compagnie d'Antoine Guillot, comment va-t-il ?
Il va très bien, bonjour François.
Bonsoir Antoine, quelques nouvelles de plan large.
Plan large
dans le futur,
dans le
présent et le futur.
Dans le futur, nous allons parler la semaine prochaine d'une cinéaste très importante et complètement oubliée qui s'appelle Kira Muratova, qui a eu un parcours étonnant puisqu'elle est née roumaine, elle est devenue moldave et donc soviétique et elle a fini ukrainienne, continuant à faire du cinéma dans l'Ukraine post-soviétique. On a redécouvert ses films au Festival de La Rochelle cette année et ils arrivent enfin à la Cinémathèque française. Vous aurez tout sur Kira Muratova.
Très bien, en tout cas ce soir à Mauvais genre, on essaiera de savoir non pas tout mais une grosse partie de ce qui se passe dans l'étrange crâne de l'étrange monsieur Mircea Cărtărescu avec ce Solénoïde qui, je le répète, est l'événement littéraire en non francophone de cette rentrée, un roman de près de 800 pages, absolument phénoménal et que tous les amateurs de mauvais genre se doivent de lire ou au moins d'attaquer, comme on dit, des montagnes. On parlera également d'Alan Moore avec vous Antoine, parce qu'Alan Moore est tout à fait à la rentrée, l'heure de la rentrée, puisqu'il y a au moins trois productions importantes.
C'est-à-dire qu'Alan Moore a arrêté, on sait, il a tout arrêté, mais il est toujours là parce qu'il occupe une part immense de l'histoire de la bande dessinée du 20e siècle finissant et 21e commençant. Et DC Comics et sa branche française qu'il édite, Urban Comics, ont l'excellente idée de travailler de manière extrêmement précise et je dirais même scientifique leur catalogue et donc de réexhumer ce qu'a été Alan Moore à cette fin des années 70, début années 80, c'est-à-dire la créature des marées, The Swamp Thing, telle qu'il l'avait réinventée. Et puis donc cette œuvre pierre, souche de toute la nouvelle bande dessinée américaine et des nouveaux super-héros à partir des années 80, Watchmen, dans une édition extrêmement scientifique. Et sans doute, vous avez parlé d'exégèse tout à l'heure, c'est moins une exégèse, mais c'est recréer le contexte et préciser toutes les allusions qu'il y a dedans. Parce que l'exégèse de Watchmen, ça a occupé des milliers et des milliers de pages et ce n'est pas encore fini. Là, c'est un tout autre propos, on en reparlera tout à l'heure.
Tout à fait, parce que chaque case bénéficie d'un commentaire savant, c'est totalement vertigineux. En temps, avant d'ouvrir cette Bible donc des Watchmen annotés, nous allons ouvrir notre encyclopédie pratique des mauvais genres avec Céline Duchesnay. Bonsoir.
Bonsoir François.
Toujours dans les champignons.
Oui, toujours dans les champignons.
La coulmel, le payol.
Le
bolet Satan.
Quelque part, j'aimerais même ne plus en parler des champignons, tellement je suis plongée dans le chaudron des champignons. Mais
voilà, avant d'être plongée fin octobre dans le chaudron des sorcières.
Ah oui, mais ça, c'est un autre chaudron. Donc le 21 octobre, ça, ce sera la série documentaire avec Laurent Polleré sur les champignons qui sortent du bois. Et puis après, il y aura l'affaire sorcière, mais on aura le temps d'en reparler aussi.
Absolument, c'est un événement France Culture.
Et aussi, il est vrai.
Et c'est un événement Duchesnay. Mais en attendant, nous ouvrons notre bréviaire des abîmes. C'est beau. L'encyclopédie pratique des mauvais genres. Et ce soir, de qui s'agit-il ?
Il s'agit de Dot Pearson.
On m'a souvent dit que mon cul n'avait d'égal que la pâleur des saintes. Un cul rond, pas forcément ferme, mais avenant et jovial. Un cul pratique et praticable qu'il leur suffisait d'employer pour mieux y faire couler leur affliction à mon égard. S'ils étaient tristes, ce n'était que de son départ, laissant les draps froids, mais sentant le foutre suffisamment fort pour que la chambre soit impraticable à tout étranger à l'affaire. On démarre sur le derrière, pour arriver sur le devant. On commence par le cul. Et puis, de toute façon, on va parler de cul dans le livre. Donc, au moins, comme ça y est, c'est fait. On sait qu'on va parler de cul.
Ça, c'est sûr, dans 12 sous-titrés petits précis de pornographie, on parle fesses. Et d'une manière tout à fait plaisante et jouissive. Dot Pierson n'y va pas par quatre chemins. Elle a le sens de la phrase, de la situation, le plaisir des mots qui mouillent et qui glissent. Et on sent la jubilation qu'elle éprouve à raconter ces 12 histoires de rencontres amoureuses, de mélange des corps, des sexes, des humeurs et des émotions. Des histoires qu'elle a puisées dans son vécu, riche et intense, car elle est de celles, dit-elle, qui consument par les deux bouts et marchent sur des bras. 12 est un livre tonique, charnu et chatouillant qui fait beaucoup de bien à la littérature érotique.
Pourquoi 12 ? Parce que, en fait, je suis partie de l'idée d'un psychologue comportementaliste qui s'appelle Desmond Morris et qui a décrété que pour que deux personnes qui ne se connaissaient pas deviennent intimes, donc alors, attention, l'intimité, on n'est pas forcément sur une intimité totalement. Trop intime, il fallait passer 12 étapes pour que deux personnes qui ne se connaissent pas rentrent en intimité. Ça commence par, il me semble, l'œil à œil, donc se regarder dans les yeux. Ensuite, c'est poser la main sur l'épaule. Ah oui, on est sur quelque chose de très physique. Et en même temps, qui se passe un petit peu au-delà, parce qu'au bout d'un moment, la parole arrive. Et voilà, il faut passer toutes ces étapes-là. Et la 12e, c'est l'acte sexuel. Et donc, j'ai essayé de construire ce livre-là sur la base de ces 12 étapes. Et donc, il y a 12 histoires qui ne sont pas forcément en corrélation avec les 12 étapes. Quoique, si on cherche bien, en fait, on se rend compte que dans toutes les histoires, on passe toutes les étapes. Je tenais absolument à ce qu'il y ait les mots « chatte », qu'il y ait les mots... alors, il y a eu con, parce qu'il fallait bien que je trouve aussi des synonymes. Alors, ce n'est pas évident, et réellement, nous sommes très très pauvres en matière. Alors, en même temps, Colette Renard serait la première à me dire non, il y en a plein d'autres. Mais bon, voilà, je voulais pas tomber non plus dans l'abricot, etc. Je tenais, voilà, à appeler une chatte, ça c'était très très important, et à parler de Cyprine, à parler aussi de masturbation, à parler de clitoris, à parler du fait que voilà, c'est mieux quand on mouille, en fait, parce qu'on en a besoin, que sinon c'est sexe, ce n'est pas agréable. Remettre le sexe féminin, non pas au centre, mais en égalité avec. C'est-à-dire que c'est se donner du plaisir l'un l'autre, et c'est pas que pour l'un ou que pour l'autre, et puis oui, rendre le sexe féminin le plus beau possible, le plus en avantage possible, parce qu'il est formidable, ce sexe féminin. Enfin, on a des capacités de jouissance extraordinaires quand même avec.
Sous-titré Petit précis de pornographie de Dot Pierson est sorti aux éditions du Nouvel Attila, l'occasion de lire des récits érotiques, sensuels et décomplexés, tout en abordant aussi, il est vrai, des thèmes plus graves comme les addictions, la mort, la drogue. Donc Dot Pierson est une artiste multidisciplinaire, aussi vive dans la musique, l'image que le théâtre immersif, et 12 est son premier ouvrage.
Des mots qui mouillent. J'ai entendu cette phrase extraordinaire.
Mais vous avez vu que c'était un livre qui était assez humide au final. Oui, mon cher François, je vais vous le prêter d'ailleurs.
Ah bah oui, absolument. Absolument, je vous le rendrai, peut-être. En tout cas, c'est au Nouvel Attila, là où est paru également Querelle de Warren Lambert, qui a eu le prix Sade la semaine dernière. Décidément, le Nouvel Attila, mon cher Antoine, nous réserve des surprises de plus en plus redoutables.
Oui, puis c'est à lire en complément d'un livre dont nous parlerons tout à l'heure, si nous en avons le temps, le nouveau BDQ d'Aude Picot, DS.
Ah oui.
Mettre des mots sur la chose humidité et remettre le sexe féminin en égalité, c'était tout à fait le propos.
Voilà, ça c'est la case qui mouille, mais c'est pour la fin de l'émission. En tout cas, des mots qui vibrent, des mots qui sont à leur manière des véritables centrales d'énergie, ce sont ceux de Mircea Cărtărescu, dont nous allons entendre en première partie d'émission ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture, un grand entretien. « Voilà, Laurent Polleret ce soir nous a concocté une playlist dark et urbaine, puisqu'il a largement en être question dans notre émission, dans votre émission préférée. Alors, Mircea Cărtărescu, ça n'est pas un nouveau venu à Mauvais Genre, puisqu'il y a déjà plus d'une dizaine d'années, nous l'avions reçu pour le dernier volet de sa trilogie Orbiter. Ça s'appelait L'aile tatouée. J'étais à l'époque en compagnie de Nicole Caligari, sa romancière, et de Jean-Yves Baucher. Et on avait déjà pu apprécier à quel point cet homme est un véritable génie, à la fois pour brouiller les cartes et pour mêler les genres, que ce soit le réalisme, le fantastique, le merveilleux, la fantasy urbaine. Le personnage était très, très, très étonnant. Il est né en 1950. C'est sans doute à l'heure actuelle le plus grand écrivain roumain, en tout cas l'institution littéraire, on peut le dire, roumaine la plus importante. Il est à la fois romancier, essayiste, il est également éditeur, il anime une librairie qui porte son nom à Bucarest. Il a été lauréat de prix internationaux comme le prix Thomas Mann en Allemagne, c'est tout dire. Et évidemment, on parle de lui pour le Nobel, ce qui serait, selon moi et selon d'autres personnes, la moindre des choses. De quoi s'agit-il avec Cărtărescu ? Eh bien, c'est un homme qui est un peu l'héritier de tout le grand lyrisme baroque, de toute cette capacité à fusionner l'évocation du quotidien le plus minuscule avec la fantasmagorie la plus débridée, un maître du fantastique, quelqu'un qui se réclame aussi bien de Borges, de Swift, de Kafka, de Jean Rey, puisqu'il cite dans Solenoïd Malpertu. Et donc ce dernier roman qui nous est livré par Noir sur Blanc, qu'on remercie vraiment infiniment, dans une traduction absolument sublime de Laure Inkel, eh bien c'est d'une certaine façon le couronnement d'une tétralogie romanesque qui a commencé avec Orbiter. Donc il y avait Orbiter qui est disponible aujourd'hui en folio SF, L'œil en feu, L'aile tatouée et aujourd'hui Solenoïd. Vous allez voir de quoi il s'agit, c'est un petit peu les mystères de Bucarest, c'est à la fois l'évocation de la vie au quotidien dans tout ce qu'elle peut avoir de plus rude, de plus grise et de plus, par moments de plus effrayant, d'un professeur de français qui est un homme de lettres qui a raté sa vocation de poète mais qui néanmoins a trouvé une autre vocation, celle d'un ascète, d'un mystique de la langue qui tient un journal personnel, et Solenoïd est ce journal. Il y a cet aspect-là. Et l'autre aspect, c'est la mise en œuvre d'une immense fantasmagorie lyrique autour de la ville de Bucarest et de la société roumaine. On écoute donc Mircea Cărtărescu. Ses propos sont traduits par Aluca Melinte Levi. Mircea Cărtărescu, bonjour. Merci d'accorder cet entretien à Mauvais Genre sur France Culture.
Bonjour, je vous remercie pour m'inviter.
C'est d'ailleurs une seconde invitation. On est très heureux de vous retrouver à l'occasion d'une parution tout à fait considérable, qui est donc Solenoïd aux éditions Noir sur Blanc. Alors, première question, par rapport à l'ensemble de votre œuvre, notamment par rapport au cycle d'Orbiter, quelle est la place de Solenoïd ? Est-ce que c'est une sorte de clé de voûte ? Est-ce que c'est la fin d'un gigantesque cycle ou autre chose ?
Je pense que c'est vorba despre un ensemble romanesque, alcătuit din trei romane, romanul Travesti, Orbiter și Solenoïd, care alcătuiesc o lume întreagă.
Je dirais tout d'abord qu'il s'agit d'un ensemble romanesque composé de trois romans, Travesti, Orbiter et Solenoïd. Et ces trois romans réunis forment un monde en soi, un monde entier.
Într-un fel, ele seamănă cu monumentul religios din centrul Florenței, unde Orbiter este Marea Catedrală cu domul lui Brunelleschi, iar Solenoïd este campanela lui Giotto.
D'une certaine façon, on pourrait que ça ressemble à ce grand monument religieux qui se trouve au centre de la ville de Florence, avec la grande cathédrale qui représente le dôme de Nolenski, ce serait Orbiter, et Solenoïd, ce serait la campanelle.
Alors, effectivement, on a le sentiment d'être confronté avec vous, Mircea Cărtărescu, un grand architecte baroque de la Renaissance italienne. Alors, première question, à un moment, le héros évoque le tournoiement d'une pièce de monnaie dans l'air et dit que sa vie, le réel, son existence quotidienne, c'est le côté pile ou le côté face, et puis que le fantastique, la fantasmagorie, le rêve, les cauchemars, c'est le côté pile, et qu'en définitive, bien, son journal, le roman Solenoïd, serait le tournoiement de cette pièce. Donc une sorte de vision à la fois double que la littérature permet d'unifier par le tournoiement du récit.
Eu cred că pot defini cel mai bine Solenoid ca un roman metafizic. Este un roman metafizic plin de speculații de acest tip, speculații filozofice, speculații matematice, speculații teologice, care se îmbină toate într-un fel de nod mistic.
Je penserais que mon roman peut se définir comme un roman métaphysique, donc un roman plein de spéculations philosophiques, mathématiques, théologiques, et tout se tourne en amont, c'est un nœud mystique.
Et comme tout dans cette lume își corespunde, nous ne sommes nici departe
de... Et comme tout a des correspondances dans notre monde, je pense qu'on n'est jamais trop loin de la logique mathématique avec Gurkantor ou de la physique quantique. Donc toutes ces choses trouvent dans le monde d'aujourd'hui un correspondant parfait.
Il y a cet aspect métaphysique, scientifique, théologique. Il y a aussi un aspect fantastique et fantasmagorique. Vous citez le Horla de Maupassant, vous citez Malpertuis de Jean Rey. Par moments, la démesure des visions, notamment les univers souterrains, font évidemment penser à Lovecraft. On pense aussi à Borges. Il y a chez vous toute une substructure fantastique et fantasmagorique.
Fără nicio îndoială, toată literatura mea este fantastică și poetică. Dar îmi place să cred că ea are
sans doute, toute ma littérature est fantastique et poétique, mais j'aime croire que le substrat réaliste est là, parce que je pense que le côté fantastique est encore plus puissant lorsque son substrat réel est le mieux construit. On dirait comme un avion. Je pense qu'un avion a besoin de rouler longtemps sur la piste avant de pouvoir prendre son envol.
Il y a effectivement, Mircea Cărtărescu, dans Solenoid, une forte part d'évocation historique, sociologique, d'un réalisme qui confine par moments à une sorte d'hypernaturalisme, où la violence des situations sociales est montrée à l'extrême, et qui confine au fantastique. On est toujours sur la frange entre, je dirais, une espèce de spectacle du quotidien qui est aux limites de la vision fantastique.
Până la urmă, totul are rădăcini în biografia mea.
Jusqu'à la fin, tout prend ses racines dans ma biographie. En vérité, j'ai été professeur pendant 10 ans, dans les années 80, dans une petite école de la périphérie de la ville de Bucarest.
Această miză în scenă mi-a dat mie posibilitatea să...
Donc cela m'a permis de faire cette mise en scène où ça m'a donné la possibilité de prendre le réalisme avec réalisme et satirisme des personnages qui vivaient et qui travaillaient effectivement dans cette école, et cela a glissé petit à petit vers le grotesque et vers le fantastique à travers toute leur étrangeté.
Galeria mea de profesori, de care sunt foarte mândru, seamănă puțin cu cea din Amarcord a lui Fellini.
Donc cette galerie de professeurs est là et j'en suis très fier. Elle pourrait rappeler la Amarcord de Fellini. À travers ces professeurs, à travers ces personnages, j'ai eu accès comme à des portails, comme à des portails pour entrer dans d'autres mondes. Ce sont des mondes imaginaires, mais qui sont liés les uns aux autres dans une imbrication d'une grande complexité.
Alors, on va partir, je dirais, de l'élément central du roman, qui est Bucarest. On pourrait appeler ce roman Solenoid, Mircea Cărtărescu, Les mystères de Bucarest. Vous donnez de Bucarest une vision, là encore, hallucinée, fantastique. C'est une ville qui semble rongée, usée, une ville baroque qui est en même temps une ville sur le déclin, une ville crépusculaire, traversée par des trams, avec des friches, avec des bâtiments un peu désaffectés, une espèce de grandeur vide, une espèce de vacances en même temps. Là, vous donnez une vision qui fait penser à Budapest aussi. Donc là, on est dans... Déjà, il y a un rapport à la ville, un rapport à l'histoire qui est très fort.
Bucureștiul este un cadru inventat aproape în întregime de mine.
Bucarest, c'est un cadre que dans ce roman j'ai presque totalement inventé. C'est une ville que je voulais représenter la tristesse infinie. Et c'est toute cette mélancolie qui s'empare de tout le monde qui vient de ce cadre. C'est justement cela qui mène à cette boutade.
Este un oraș în ruine, care în imaginația mea a fost construit într-o singură, a fost construit deodată de către un arhitect de geniu.
Cette ville sur Bucarest que je décris ici, c'est une ville totalement une ruine. Je l'ai imaginée construite d'un coup par un architecte de génie qui a voulu, à partir de rien, de la construire comme Brasilia. Mais à la différence de Brasilia, il n'a pas cherché de faire une ville ultra moderne en verre et en acier, mais en ville déjà, une ville déjà en ruine.
Bucureștiul meu ar trebui să aducă cititorului în minte peisajele abstruse ale lui Giorgio de Chirico. Chirico, lumea lui Chirico,
mon Bucarest devrait idéalement ramener à l'esprit du lecteur le monde de Giorgio de Chirico, son monde et sa peinture métaphysique.
Seamănă cu această pictură prin spectralitate.
Mon Bucarest ressemble à cette ville de Chirico, à sa peinture, par sa spectralité, par sa solitude et par ce monde presque dépeuplé.
Vous citez Malpertuis de Jean Rey, donc là aussi il y a une gigantesque demeure avec un nombre incalculable de pièces, des corridors infinis, des manigances, des mystères. On peut aussi penser aux villes de Lovecraft, Innsmouth, Arkham, on peut aussi penser aux villes à Gotham. Il y a toute une communication, je dirais, entre votre Bucarest et un imaginaire contemporain de la ville fantastique.
Da, ar trebui să cităm aici orașele lui Italo Calvino, orașele fantastice ale lui Italo Calvino, orașele din Pierre de Mandiargue.
Oui, et on pourrait ici citer aussi les villes fantastiques d'Italo Calvino ou de Pierre de Mandiargue et d'autres maîtres aussi un peu moins connus du fantastique de ce monde. C'est une littérature que je lis et que j'aime. Et plus ils sont étranges, plus ils sont en deçà de la norme, plus je me les sens proche. Parce que pour moi, le vrai artiste, ce n'est pas celui qui est très connu, ce n'est pas l'artiste célèbre, mais ce sont les marginaux, ce sont les peintres ou les écrivains ou les musiciens qui créent et qui travaillent pour eux-mêmes, pour mieux se connaître.
Personne ne savait ce qui avait été fabriqué dans ces halles. Des tuyaux pour les égouts de la ville ou pour l'industrie de guerre? Peut-être que la fabrique de tuyaux soudés n'était que l'avatar moderne de la fabrique que nous longions maintenant dans de la boue plein de morceaux de ciment. Mais je tenais d'un enseignant ou du père d'un élève que rien de ce que l'on trouvait dans les entrailles des halles ne correspondait à une ligne de montage pour les tuyaux ni pour autre chose. La fabrique avait plutôt été prévue dès le départ comme ruine, ainsi que tout Bucarest, la ville la plus triste à la surface de la terre. Comme témoignage saturnien du temps qui dévore ses enfants, comme illustration de l'impitoyable deuxième loi de la thermodynamique, comme inclinaison silencieuse, soumise, masochiste de la tête devant la destruction de toute chose et devant l'inutilité de tout effort, depuis l'effort du charbon pour former des cristaux jusqu'à celui de notre pensée pour comprendre la tragédie que nous vivons. Comme Brasilia, mais plus profondément et plus réellement, Bucarest était né sur le papier d'un élan philosophique pour imaginer la ville qui illustrerait le mieux le destin de l'être humain, ville de la ruine, de la décadence, des maladies, des gravats et de la rouille. Alors justement, on peut parler maintenant, si vous le souhaitez, de votre héros, puisque c'est un journal sur un journal en même temps, Solénoïd. Le personnage est professeur de français dans un petit lycée de Bucarest. Il vient d'un milieu modeste et il a subi un échec dans sa vie, ce qui est un échec littéraire. La lecture d'une poésie auquel il tient énormément n'aboutit à rien, l'a humilié publiquement, puisque ça a été une lecture publique qui s'est très mal déroulée. Et ensuite, il a amorcé une sorte d'œuvre qui n'a rien à voir avec une œuvre littéraire officielle. Donc effectivement, j'aimerais que vous nous parliez de ce personnage dont la voix nous accompagne pendant près de 800 pages.
Această carte este într-o, pe o anumită latură a sa și o critică acerbă a lumii literare și a carierei literare, a ceea ce înseamnă un scriitor oficial.
Ce livre est certainement d'un certain côté une critique acerbe contre le monde littéraire et contre ces écrivains officiels qui sont des personnages obsédés et fascinés par le gain, la gloire, l'argent ou les prix littéraires. Autant de choses qui sont extérieures pour moi à la création. À la différence de cela, mon personnage, il refuse de faire des concessions. Il refuse même de faire la simple concession de publier et ce faisant, il choisit de devenir un des si rares mystiques de la littérature et un de si rares ascètes littéraires.
Alors justement, il refuse, et vous refusez, le statut de la littérature qui est peindre sur, qui peut se résumer par cette idée de peindre sur les murs des portes imaginaires. Et son journal se définit comme un plan d'évasion. Et sa seule peut-être obsession dans la vie, c'est en sortir des prisons, sortir des armures, sortir des corsets, se libérer de la réalité telle qu'elle vous est donnée. Donc je reviens sur cette image justement du plan d'évasion. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est s'évader du réel.
O metaforă centrală a cărții mele este închisoarea. Închisoarea în care toți suntem închiși, închisoarea craniului nostru.
L'une des métaphores centrales de mon livre, c'est la prison, cette prison dans laquelle nous sommes tous enfermés, la prison de notre boîte crânienne. Et le souhait, le devoir de chacun d'entre nous est d'en évader. Et l'artiste, c'est celui qui réussit à ouvrir une fente dans son front. Le personnage, ainsi, à travers d'innombrables démarches éthique et métaphysique arrive à un moment donné devant une porte qui s'ouvre. Mais à ce moment-là, il refuse de sortir.
Pentru mine, acest refuz de mântuire personală, de
salvare
personală, a fost o mare surpriză.
Refuz de sortir du personnage marque sa rédemption personnelle. C'est son choix et j'en ai été très surpris moi-même. J'étais surpris parce que moi, je croyais que ce personnage allait être l'un des rares qui allait réussir à s'évader, mais par un acte esthétique pur. Mais finalement, son choix m'a étonné d'abord. Il m'a rendu heureux et il m'a donné la joie.
Aici începe marea temă etică a cărții.
Et c'est ici que commence le grand thème éthique de mon roman, c'est-à-dire le dilemme fameux qui dit que dans une maison en flammes se trouve un petit enfant, un bébé et un tableau, un chef-d'œuvre. Et si tu ne pouvais choisir d'en sauver qu'un des deux, lequel des deux choisiras-tu de sauver de ces flammes ? L'enfant ou le tableau ?
Autre aspect donc de Solénoïde, Mircea Cărtărescu, la description que vous faites de la violence sociale, violence sociale qu'on peut voir à l'œuvre déjà au lycée, où la violence sur les élèves est assez redoutable, notamment cette professeure qui a une bague dans laquelle elle tape sur le crâne des élèves qui sont un peu marqués comme ça, scellés presque avec cette bague. Il y a la violence dans les usines, dans les fabriques, là aussi absolument redoutable. Il y a aussi dans le monde médical, vous mettez en scène un préventorium où voit le héros quand il est malade, étant enfant, qui est terrible, les hôpitaux, les polycliniques. Donc il y a le sentiment que le corps de l'homme, la chair, comme ça, est continuellement martyrisée, en souffrance, et que d'une certaine façon, la peur et la souffrance sont au cœur de votre vision du monde, enfin en tout cas dans Solénoïde.
De fapt, pentru mine și pentru personajul meu, real este numai ceea ce suferă. Reală este numai suferința. Niciun lucru care nu ne doare, nu există pentru noi.
En fait, pour moi, tout comme pour mon personnage, n'est réel que ce qui fait mal. Réel est seule la souffrance qu'on ressent. Ce qui ne me fait pas mal n'existe pas. J'ai reçu dans ma vie beaucoup de violence. J'ai vécu avec beaucoup de souffrance pendant une époque totalitaire où effectivement, les professeurs frappaient les enfants, ou même les stomatologues étaient de vrais tortionnaires sans pitié qui agissaient sans aucun anesthésique. Et il y avait en plus, bien sûr, une grande violence politique. J'ai voulu dans mon livre parler aussi de la violence et de la cruauté soufferte par les Roms. J'ai quelques personnages appartenant à cette ethnie dans mon roman et qui souffrent de toute cette violence et de toute cette dégradation. Donc à travers le livre, j'ai voulu réagir aussi contre cette violence ethnique qui écrase les plus pauvres et les plus humbles de mes concitoyens.
Je vais donc bâtir ici une histoire de ma vie. Sa partie visible, je le sais mieux que personne, est la moins spectaculaire, la plus terne des vies. La vie qui correspond à mon visage effacé, à mon caractère distant, à mon insignifiance et à mon manque d'avenir. Une allumette presque entièrement consumée, dont ne reste qu'une traînée de cendres blanchâtres. Le professeur de roumain de l'école 86, tout au bout du quartier Colentina. Et pourtant, j'ai des souvenirs qui disent une toute autre histoire. J'ai des rêves qui les fondent et les confirment, et dont l'ensemble a construit dans les souterrains de mon esprit un monde d'événements fantastiques, indéchiffrables, et qui malgré tout veulent désespérément être déchiffrés. Comme un étage de ma vie qui se serait écroulé. Les câbles sont arrachés et les liens avec les édifices restés à la surface se sont brisés. Dans mes souvenirs d'enfance et d'adolescence, il est des scènes que je ne peux localiser que très difficilement et que je ne comprends toujours pas. Comme des pièces de puzzle jetées dans une boîte, comme des rêves qui attendent leur interprétation.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Alors, venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à Tchèque Artaïssou, au titre solénoïde. Alors, le solénoïde, c'est une forme, c'est un objet assez complexe d'apparence. On peut d'abord le décrire. Qu'est-ce que c'est qu'un solénoïde ?
Solenoidul este un aparat, nu trebuie să intrăm în detalii, nu suntem tehnicieni. Este un aparat care are simplul effect în romanul meu de a produce levitație.
Le solénoïde est un appareil, il ne faut pas ici qu'on entre dans des détails parce que nous ne sommes pas des techniciens, donc c'est un appareil, c'est un outil, un instrument dont le simple effet dans mon roman, c'est qu'il produit la lévitation.
Lévitația este una dintre cele mai poetice idei pe care ni le putem imagina. În romanul
la lévitation est l'une des idées les plus poétiques qui puissent exister. Dans mon roman, il y a cette solénoïde qui se trouve dans les fondations de la ville de Bucarest. La ville elle-même plane, les maisons, les gens dorment dans des lits avec ce pouvoir de lévitation à un mètre. Ils font l'amour tout en lévitant. Et à travers cela, j'ai voulu me rapprocher de Salvador Dali qui a créé aussi un monde avec des objets qui s'aplatissent, qui planent. Et tout cela m'a inspiré pour essayer de chercher quelque chose de poétique, d'impondérable.
În cele din urmă, Bucureștiul însuși se ridică în aer, asemenea unei farfurii zburătoare.
Finalement, la ville de Bucarest finit par planer elle-même et s'envoler comme une soucoupe volante dans l'immensité des cieux. J'ai voulu, à travers cela, rendre un hommage et en même temps dire ma furie contre Bucarest, parce que j'ai toujours eu, avec cette ville, un sentiment qui est un complexe d'amour et haine.
En final, sous Bucarest, ca sub faimoasa pâlnia a lui
En finale, en dessous de la ville de Bucarest se trouve, comme dans le fameux entonnoir de Dante Alighieri, l'enfer, rempli de ses démons. Ces démons qui se nourrissent de l'immense douleur des hommes. Tout cela explique ma confusion et mon ressentiment avec cette ville. C'est une ville qui m'a rongé vivant, si je puis dire. Mais j'ai voulu, par l'acte final aussi, qu'elle s'élève, qu'elle ascende dans le sens mystique ou religieux de l'ascension, afin de lui donner une aura de sainteté, de la sanctifier, cette ville qui, finalement, c'est l'endroit du monde qui m'a vu naître.
On peut penser, en voyant Bucarest monter vers le ciel, à la fin de l'Apocalypse, où la Jérusalem éternelle, elle, descend vers la terre. Est-ce que, justement, il y a une volonté de faire une sorte d'apocalypse dans Solénoïde ?
Nu m-am gândit la asta până acum, dar fiind vorba despre un arhetip, fără îndoială că numeroase opere artistice sau teologice trebuie să-l cuprindă.
Je n'ai jamais pensé à cela jusqu'ici, mais étant donné que c'est un archétype, sans doute que de nombreuses œuvres littéraires ou artistiques doivent le contenir.
Quand on a achevé la lecture de Solénoïde, Mircea Crăstărescu, il y a une sorte de double vision. Il y a la vision de la réalité quotidienne, douloureuse, grise, violente, extrêmement pénible. Et puis, il y a tout le sous-sol, c'est-à-dire que vous ménagez sous les apparences des mondes entiers, des espèces de cultes, de divinités, de lieux de culte, des lieux de mystère, des lieux de sacrifice. Il y a chez vous donc volontairement une vision double de la réalité, une apparence historique et sociale rêche, difficile, et puis dessous l'émerveillement, le cauchemar, mais enfin quelque chose qui échappe à cette espèce de grisaille quotidienne.
Fără îndoială, este așa, aș adăuga și un strat superior, cerurile.
Sans doute, c'est ainsi, mais j'ajouterai aussi un strat supérieur, c'est-à-dire les cieux, parce que dans toute vision mystique, il y a la terre, il y a l'inframonde en dessous, mais il y a aussi le monde au-dessus. Et j'ajouterai ici le fait qu'au centre du monde se trouve un bâtiment dont je suis le fier constructeur. C'est un bâtiment que j'ai construit moi-même, cet institut de médecine légale, où règne une déesse, la déesse de la mort et de la destruction. Contre elle se dresse petit à petit une secte qui petit à petit rassemble toute l'humanité. Ce sont les soi-disant piquettistes qui pensent à un moment donné défendre la dignité de l'homme en protestant contre tout ce qui fait mal à l'homme, comme la folie, l'agonie, la maladie, les accidents et la mort.
On pense que Joyce, avec Ulysse, a voulu créer son Dublin. Il y a également, on peut parler à Berlin, Alexanderplatz de Dublin. Est-ce que vous êtes dans cette même ambition littéraire, cette même projection comme ça, d'à la fois de rendre hommage à une ville et de la recréer?
Eu nu mă compar cu acești autori celebri.
Je ne veux pas me comparer à ces auteurs célèbres. Tout ce que je fais, c'est mon modeste devoir, en m'asseyant à ma table de travail, c'est d'essayer d'écrire au mieux pour moi et pour mes lecteurs. Je suis extrêmement reconnaissant pour chaque personne qui achète et qui lit mon livre. C'est comme ça que je vois ma mission littéraire.
Voilà un entretien accordé à Mauvais Genre sur France Culture par Mircea Crăstărescu, dont Solénoïde, l'immense chef-d'œuvre, vient de paraître aux éditions Noir sur Blanc dans une traduction extrêmement spectaculaire de Laure Inkle. Les propos de Crăstărescu étaient traduits par Raluca Melinte-Lévy. Donc je recommande, le mot est faible, très très chaudement cette lecture, même si il faut s'y prendre, il faut prévoir du temps. Le livre fait 800 pas, c'est une véritable aventure d'immersion littéraire dont on ne sort sort pas totalement indemne. Je recommande également, bien sûr, la trilogie d'Orbiteur. Orbiteur, l'œil en feu et l'aile tatouée de Mircea Cărtărescu, qui est un petit peu les préliminaires de ce quatrième tome qui est Solénoïde et qui sont parus aux éditions de Noël. Je remercie bien évidemment Emmanuel Amar d'avoir rendu possible cette rencontre et les éditions Noir sur Blanc de nous avoir offert cette lecture. Voilà, après Mircea Cărtărescu et Solénoïde, eh bien, on va passer à Alan Moore, dont Jérusalem est assez proche de Solénoïde. Enfin, ceux qui ont aimé, qui ont fait le parcours de l'un, devraient aimer se doivent de faire le parcours de l'autre. Donc, Alan Moore, Alan Guillot, oui, plutôt Antoine Guillot, c'est mieux comme ça. Antoine Moore.
Alors, avant Jérusalem et avant la retraite d'Alan Moore, il y a l'Alan Moore scénariste de bande dessinée. On l'oublierait presque maintenant que c'est devenu une personnalité comme ça, presque mondiale du monde de la création littéraire. Lui aussi, il mériterait son prix Nobel.
Ah, sans problème.
Allez savoir un jour. Alors, Alan Moore, c'est le grand déconstructeur, déjà. C'est l'érudit déconstructeur, on dira. Et il va réinventer, il va être un de ceux, en tout cas, avec Frank Miller, qui vont réinventer le monde du super-héros dans les années 80. Et si on retourne aux sources, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a évidemment, on va en parler tout de suite, ce Watchmen, les gardiens extrêmement connus, mais avant les gardiens, il y a eu la créature du marais, Swamp Thing, et c'est une reprise par Alan Moore. On a pu voir récemment édité, toujours par Urban Comics, la première version, celle dessinée par Bernie Wrightson, donc grand dessinateur gothique, et qui avec... Avec Len Wein, vont créer à partir de 1971 cette créature extrêmement mélancolique qui hante les marais de Louisiane et qui est un peu une série d'aventures, de bandes dessinées gothiques, comme on pouvait la lire chez Ici Comics, des petites fables très noires et blancs, comme ça. Le personnage va être un peu abandonné. Puis en 1982, Wes Craven, le grand réalisateur Wes Craven, va s'emparer de cette créature un peu oubliée et pour accompagner la sortie du film, donc dans un sourcil de merchandising, DC Comics va décider de la relancer. Alors c'est relancé par un certain Martin Pascoe, ça marche un peu bien, mais ils ont repéré un hurluberlu qui publiait des petites histoires dans 2000 AD, le magazine britannique, qui s'appelle Alan Moore, et ils font le pari de lui confier le personnage. Et là, Alan Moore va faire ce qu'il va faire toute sa carrière en bande dessinée, c'est-à-dire qu'il va déconstruire le personnage pour mieux le réassembler. Alors, premier épisode qui est publié dans cette premier volume de Alan Moore présente Swamp Thing, la saga Swamp Thing, comme on l'appelle aux États-Unis. En un épisode, il va clore tout l'arc narratif précédent et tuer sa créature. Et deuxième épisode, ça va s'appeler la leçon d'anatomie. Et alors, pour le coup, on va découper le personnage en morceaux et on va le reconstruire. C'est-à-dire que là où au départ, c'était un scientifique qui avait péri dans un accident inventant une formule de régénération cellulaire.
Restauratrice.
Qui lui était tombée dessus en même temps qu'il s'enfuyait dans les marais. Il ressurgissait sous la forme de cette créature des marais, mais c'était un homme. Ce qu'on découvre ici, et c'est le génie d'Alan Moore, c'est que ce n'est plus un homme, c'est un végétal qui croyait être un homme. C'est-à-dire, c'est un esprit élémental de la nature, persuadé d'être un homme et contrefaisant la nature humaine. Et tout ce début, et là on tombe dans une métaphysique végétale totale, c'est un végétal qui s'assume comme végétal. C'est-à-dire, c'est un légume animé, donc qu'on ne peut pas tuer, parce qu'on dit essayer de tuer un légume d'une balle dans la tête, ça ne rime à rien. Et la bande dessinée, à partir de là, va prendre une dimension complètement folle, très horrifique aussi. Il y a un séjour dans l'enfer, il y a une créature, un singe blanc qui vient des cauchemars d'un enfant autiste et qui se repaît de la peur de ses victimes, à tel point que ça sera le premier comics de DC qui va s'affranchir totalement du Comics Code Authority, vous savez, ce petit tampon qui disait c'est approuvé, c'est lisible par tout le monde. Et je vous recommande notamment ce chef-d'œuvre qui est le dernière histoire qui s'appelle Le Sacre du Printemps. Alors là, on est dans le pré-raphaélisme absolu, qui pose une question question très simple, c'est comment faire l'amour avec un végétal? Eh bien, il faut manger ses tubercules. Voilà, c'est la petite leçon. Et ça donne des pages complètement hallucinées, psychédéliques, d'une beauté totale. Et on comprend, en lisant La créature des marées d'Alan Moore, d'où viennent les Watchmen.
Donc Alan Moore, volume 1, Swamp Thing. Deux autres volumes sont à venir chez Urban Comics.
Et puis alors voilà, je parle maintenant, on introduit comme ça les Watchmen. Il faut saluer quand même le travail que fait Urban Comics et que fait DC Comics aux États-Unis. C'est un travail non seulement de restaurer son catalogue, comme le font d'autres en France, hein, il faut faire réémerger ce qui est là, mais c'est surtout un travail scientifique. Et un travail qui permet à vous, lecteur, de rentrer dans le travail.
Antoine Guillot.
Alors, exemple du travail scientifique de DC Comics via Urban Comics en France. Killing Joke, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Killing Joke,
ma foi.
C'était la réponse un peu d'Alan Moore au Dark Knight de Frank Miller. On va étudier la relation extrêmement trouble entre le Joker et Batman. Le livre est publié en 1988. Il est réédité régulièrement et remis au goût du jour, c'est-à-dire avec de nouvelles couleurs. Et alors, cette nouvelle édition chez Urban Comics propose les couleurs actuelles, mais le même livre ensuite avec les couleurs de l'époque, et en bonus, vous avez le scénario d'Alan Moore, scénario extrêmement littéraire d'Alan Moore. Il écrit de manière
admirable. Ce qui montre
admirable.
Très bien à quel point a dû être, je ne vais pas dire aisé, mais évident le passage à l'écriture romanesque, puisque ce scénario est déjà totalement investi littérairement.
Voilà, et ça montre aussi l'apport de ses dessinateurs pour s'approprier et traduire en images
les notations,
ce style extrêmement chantourné, dont vous avez le scénario à la fin. Donc c'est vraiment rentrer dans la fabrique. Alors, rentrer dans la fabrique, c'est ce que fait, enfin, on y vient, ce Watchmen édition noir et blanc et à noter, commenté par Leslie Klinger. Leslie Klinger, les Holmésiens le connaissent très bien.
Il faut nous expliquer qui c'est, ça n'est pas n'importe qui.
C'est l'auteur en trois volumes d'une édition annotée de Sherlock Holmes. Il s'est attaqué aussi au Dracula de Bram Stoker, à Frankenstein. Et puis, il avait déjà travaillé sur Sandman, sur la bande dessinée Sandman, pour une édition annotée. Pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir une édition annotée de Watchmen? Parce que le livre sort en 1986, ça fait donc déjà plus de 30 ans, et que le jeune lecteur qui va découvrir Watchmen aujourd'hui sera peut-être étourdi par la construction narrative brillante, tous ces champs contre champs, commentaires, tout ce qui s'intrique, et la construction notamment des planches extrêmement savante. Il y a ce célèbre numéro 5 de cette série en 12 épisodes qui s'appelle Terrible Symétrie, et qui est un livre entièrement symétrique de la première à la dernière case. Mais il y a quantité de détails qui vont lui échapper. Qui sait aujourd'hui qui est Richard Nixon, par exemple, chez des jeunes lecteurs, et pourquoi est-ce qu'il est important que dans ce livre Watchmen, Richard Nixon en 1985 soit toujours président. Expliquer pourquoi l'apparition d'un être magnifique, Dr Manhattan, qui contrôle la structure atomique en 1963, change complètement le cours de l'histoire et permet à l'Amérique de gagner la guerre du Vietnam et donc à Nixon de rester président ad nauseam. Pourquoi telle affiche dont on voit un recoin de Grateful Dead dessus rentre en résonance complète avec cette histoire? Quelles sont les références? Quels sont les héros de l'âge d'or et de l'âge d'argent de la du super-héros américain, dont Alan Moore et Dave Gibbons vont reprendre les apparences pour les distordre complètement.
Il y a même un moment, une case dans laquelle il y a une sorte de McDonald's, mais non pas avec le hamburger traditionnel, mais la cuisine indienne. Et Alan Moore donne tout un tas de détails pour justifier l'existence d'une sorte de McDo indien. C'est parce que il y a une crise de population, une crise économique dans cette partie de l'Orient, que la population a migré aux États-Unis, qu'elle n'a pas énormément d'argent pour se nourrir, donc il faut qu'elle aille dans l'équivalent d'un McDo, donc il faut qu'il y ait un McDo. Il y a une sorte d'hyperconnectivité, d'hyperconnexion de tous les éléments narratifs. C'est totalement vertigineux.
Mais le grand apport d'Alan Moore, ça a été de se poser la question, si dans notre monde à nous apparaissaient des dingues qui mettent des costumes stupides pour aller se battre contre des brigands et en espérant qu'il y aura des super vilains costumés comme eux, parce que sinon leur existence n'a aucune raison, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pratique dans le monde? Et à partir de là, il crée tout un univers parallèle, très relié au nôtre, mais qui, évidemment, est parti dans d'autres directions. À partir du moment où il y a des super-héros, tout devient différent, surtout quand il y en a un qui, comme je vous l'ai dit, maîtrise le temps. Il y a un numéro extraordinaire où on entre dans la pensée du docteur Manhattan, puisque pour lui, le temps est simultané. Donc il pense à la fois 1950 et 2025. Il voit tout en même temps. Et ça, Alan Moore arrive à nous faire entrer dedans. Mais là où Leslie Klinger est complètement dingue et nous permet d'avoir des nouvelles entrées, c'est qu'il n'y a pas un détail qui lui apparaît. Il n'est pas dans l'exégèse, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire voilà ce que ça signifie, Watchmen. Il dit voilà d'où ça vient et voilà pourquoi là, dans ce petit coin, il y a un nœud sur un fil de micro. Voilà pourquoi tel ticket d'un concert signifie que... etc.
Et le comble, c'est que ça n'est jamais tiré par les cheveux, byzantin, tordu. C'est évidemment... ça ne peut pas être autre chose. Il met à nu une intention authentique.
Non, mais c'est prouvé. Et ce qui fait que ce livre est presque un précis de culture de l'Amérique du XXe siècle. De la pop culture aussi, et de tout le bain à la fois populaire et extrêmement précis dans les références culturelles dans lequel baignait Alan Moore et qu'il nous a transmis. Et pour bien comprendre, vraiment comprendre Watchmen, il faut absolument lire cette édition qui est stupéfiante.
Alors on la recommande donc aux férus d'Alan Moore, évidemment aux fans absolus de Watchmen. Il faut quand même avoir une connaissance aboutie, une relecture fréquente.
Mais je crois qu'on peut rentrer dans Watchmen par là. C'est-à-dire d'abord parce que l'édition, je l'ai dit, en noir et blanc, ce qui fait qu'on admire énormément le dessin de Dave Gibbons que beaucoup ont décrié comme étant d'un classicisme un peu figé, qui en fait a des compositions graphiques très très surprenantes. Il a une façon par exemple de casser par des diagonales les horizontales des cases précédentes. En fait, on se réjouit énormément et on peut le lire une première fois en couleur si vous voulez, mais ou le découvrir comme ça, le lire une première fois en lisant ensuite les annotations, ou faire comme moi. Alors évidemment, ça doit faire la je sais pas 15e fois que je relis Watchmen, avec ce bonheur de redécouvrir de nouvelles choses grâce à Leslie Klinger, qu'il soit loué.
Swamp Thing, Killing Joke, qui est la monumentale édition annotée de Watchmen de Leslie Klinger. Tout cela chez Urban Comics. Deux annonces. BDRama au Forum des Images à Paris du 27 au 29 novembre, avec en vedette Mathieu Sapin, qui convie ses amis Johan Sfar, Christophe Blain, à être présent avec lui, et puis une édition donc de BDRama où vous pouvez également retrouver Émile Ferris. C'est donc, je le répète, 27-29 septembre, c'est à Paris au Forum des Images.
Et ça se fait en parallèle avec la 7e édition, je crois, de Formula Bulla, qui va durer à peu près un mois, mais dont le temps fort sera du 24 au 29 septembre. C'est à Paris et en Île-de-France. Il y aura notamment une des expositions Blutch qu'on avait vue à Strasbourg et que nous avions fait visiter haut les mains, et j'aurai le plaisir, jeudi 26 à 19h, je vous donne rendez-vous d'animer une rencontre Blutch, Michel Hazanavicius.
Un mot
autour
rapide.
De ça sera le métier avec François Sagan. Et puis enfin, un livre qui plairait certainement à Alan Moore, celui des Lost Girls. C'est DS d'Aude Picot, nouveau volume de BDQ. Vous savez qu'elle avait fait La Comtesse. Et ça revient aux origines mythologiques du plaisir féminin, c'est-à-dire le personnage de Lilith, comment elle a été honteusement chassée du paradis et comment elle est encore là de nos jours. C'est magnifique.
Et on termine cette émission avec des comtesses Lilith, celle de Jess Franco, grâce à Christophe Beer.
En 2004, Jess Franco publie en espagnol son autobiographie, traduite en français par Edgar Balzer pour Sirius Publishing, Les mémoires de l'oncle Jess et le roman d'apprentissage d'un cinéphage, désertant l'école pour les triples programmes des cinémas de banlieue madrilène. Il raconte l'étau de l'Espagne franquiste, les virées nocturnes dans les cabarets avec les striptease miteux des salles privées, le café Gigon, lieu de rencontre de tous les artistes, les acteurs excentriques du Teatro Nacional de Luis Escobar, sans lesquels, écrit Franco, le cinéma espagnol ne serait jamais sorti de son purgatoire de carton-pâte. Il a le sens du détail trivial, saisissant le dérisoire des orchestres faméliques recrutés Plaza Mayor pour les fêtes de village, musiciens décati portant des moumoutes fixées avec de la superglue ou posés comme un béret, remuant dans tous les sens à la première secousse rythmique. Franco se débrouille dans des formations de jazz, mais le cinéma sera son mode de résistance. S'évader de l'Espagne, prendre le train à vapeur, bondé et poussif en troisième classe, direction Paris. Sans le sou, il se débrouille, monte sur des échafaudages, ramasse des vieux papiers et découvre la cinémathèque d'Henri Langlois. 2 ans de liberté dans des chambres de bonne, dans les halles et les bistrots parisiens, qui sont parmi les plus belles pages d'un narrateur pleurant de bonheur, place de la Concorde, sous une pluie qui est comme un silence invisible. Nous espérions un récit monumental à la façon de Michael Powell, une vie de cinéma riche de rencontres, de tournages, d'accidents, quelques 200 films tournés de 1959 à 2013. Klaus Kinski, Howard Vernon, Margaret Lee, George Sanders, Eddie Constantine, Christopher Lee, Diane Thorne, le plus extravagant générique du cinéma bis y est à peine dévoilé. Mais nous découvrons plus précieux encore, la chronique picaresque d'une vie réinventée, pleine de trivialité et d'ironie cruelle. Franco se portraiture en anti-héros, rusé, parfois lâche, brouillant les pistes, insaisissable. Pudique, il pratique l'art de l'esquive et partage le goût welsien de l'affabulation. L'excellente traduction d'Edgar Balzer, qui s'enrichit d'un important appareil de notes, cherche à démêler toutes les facettes, mais évite la démystification stérile. Elle reste complice d'un style torrentiel et débridé, révélateur d'une veine tragicomique qui caractérise aussi l'auteur de l'horrible Docteur Orloff. D'origine latino-américaine, Balzer réussit à traduire cette mélancolie hispanique. Franco avait un mot portugais pour définir ce mélange de gravité et de bouffonnerie, saudade, une tristesse nostalgique qui fait du bien.
Merci Christophe Beer. Je rappelle les sujets évoqués ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. Solénoïde de Mircea Cărtărescu, un monument romanesque qu'il faut lire, relire, faire lire et faire relire. Et puis chez Urban Comics, 3 classiques donc signés Alan Moore, Swamp Thing, Killing Joke, et puis l'édition annotée de Watchmen par Leslie Klinger, et puis 12 donc chez le Nouvel Attila, La Trouvaille de Céline Duchesnel. Et on se retrouve samedi prochain avec Mathieu Mongin pour Rissin aux éditions Tusi Tala. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alain Joubert, Claire Poinsignon, Claire Martin-Dugard, Céline Duchesnel, Antoine Guillot, Christophe Bire et François Angelier vous remercient d'avoir suivi l'émission. Bonne nuit à tous.